Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Hubert Chameau. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien et vous êtes le coordinateur des journées pour se souvenir et travailler sur le 80e anniversaire de l'opération Chariot qui s'est déroulée à Saint-Nazaire. Et ce 80e anniversaire, c'est les 26, 27 et 28 mars à Saint-Nazaire avec l'Institut culturel de Bretagne.
Tout à fait.
Vous êtes historien, Hubert Chameau. Qu'est-ce que l'opération Chariot? On en entend beaucoup parler, on a survolé ça parfois dans les livres d'histoire, puis même parfois dans les films américains ou les films de guerre, on voit parfois dans les dialogues une référence à l'opération Chariot, donc même si on est novice, on comprend que c'était quelque chose de très important.
Alors, c'est considéré comme le raid le plus important de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui est toujours enseigné dans les écoles de guerre, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors, si on parle de films, c'est vrai que là, par contre, par rapport à d'autres moments importants de la Deuxième Guerre mondiale, on peut être étonné du si peu de films, parce qu'il y a un film de 53 ou 52, si je me trompe, un film britannique, il y a un autre film des années 70, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti jusqu'ici,
alors
parce qu'on a un scénario extraordinaire.
C'était spectaculaire.
On a un scénario extraordinaire, hein, avec une bombe à retardement dans le Campbellton. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. Hein. C'est un espoir aussi maritime, parce que ils avaient que 4 minutes de retard sur le, alors qu'ils sont partis le 26, ils arrivent le 28, vers 1h30 du matin, je sais plus l'heure exacte, mais bon, toujours est-il qu'ils avaient que 4 minutes de retard sur le programme, ce qui est extraordinaire.
Et donc, c'était en 1942, le 27 mars.
Tout à fait,
hein,
tout à fait.
1942. Voilà. Alors, on rappelle aussi le contexte, donc, la marine allemande, hein, qui est toute puissante dans notre région.
Tout à fait. Alors, c'est là, il
ne
faut
de
pas
Saint-Nazaire,
oublier.
Voilà.
Voilà, et que les Britanniques sont vraiment encore quasiment seuls à combattre. Et leur ligne logistique d'approvisionnement est très compromis par les U-boats et aussi par les fameux
cuirassés allemands,
les sous-marins, et puis le fameux Bismarck qui a été coulé, mais il reste le Tirpitz, qui est la hantise de Churchill, et justement Saint-Nazaire est la plus grande forme de radoub de la côte atlantique qui peut accueillir le Tirpitz en réparation, en entretien. Donc il faut absolument mettre hors d'état de nuire la forme Joubert, donc la forme de Saint-Nazaire, pour éviter que le Tirpitz, qui à ce moment-là en Norvège, sorte de sa tanière pour venir sur la côte atlantique. Et là, parce qu'il est redoutable, ce bateau.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire déjà que la forme Joubert, tout ce qui ressemblait, c'était ce que l'on connaît maintenant
Ça très peu. En fait, autour, ça a très peu changé. Hein. La forme n'a pas bougé. On a changé parce que le caisson a été détruit par l'opération, mais a été remplacé après-guerre. La forme est intacte. Moi, j'ai eu l'occasion, le plaisir de descendre au niveau qu'il y a des pompes de la forme Joubert, ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, je suis descendu avec une équipe de la BBC et il y avait un des derniers survivants, Coran Purdon, qui était là. Et comme il nous avait dit avec son humour tout irlandais, c'est un Irlandais, nous sommes des mauvais garçons, parce qu'ils avaient fait une super action à ce moment-là. Hein. Alors donc tout est
intérieur. J'aimerais d'abord vous demander, oui, avant de revenir, on va revenir évidemment sur toute cette opération, hein, puisque c'est cet anniversaire, ce 80e anniversaire.
Oui.
Je voulais vous poser une question naïve, voilà, que beaucoup de gens, oui, peuvent se poser. On est en 1941, c'est tout de suite après le début de la guerre. Hein, voilà, ça a commencé, oui, assez rapidement. Et comme vous le dites, cette forme Joubert, tout ça, cette base sous-marine existait telle quelle à Saint-Nazaire, telle qu'on la connaît. Comment, aujourd'hui, on est dans une échelle de temps où pour construire 4 maisons, il faut 5 ans. Hein. Comment, oui. On se dit, comment ils ont construit ça aussi rapidement?
Ah oui, alors il faut savoir que la base sous-marine, une grande partie était déjà opérationnelle, si je m'abuse, fin juin, début juillet 1941. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est, par rapport au bunker classique, elle est beaucoup moins solide. Elle est en mauvais état par rapport, parce que les bunkers, ils ont mis leur temps pour faire le mur de l'Atlantique. Par contre, la base, il fallait aller très vite pour qu'elle soit opérationnelle.
Hein,
c'est pour ça que c'est pas prévu pour rester des siècles après. Donc l'idée,
si on avait cru que 80 ans plus tard, il y aurait eu un centre,
voilà,
de.
Mais c'est vrai qu'elle est. Faut reconnaître qu'elle est moins. Elle est quand même en beaucoup moins bon état que des bunkers d'ailleurs. Quand on voit, quand ils essayent de démolir certains bunkers, ils ont beaucoup plus de mal, alors que quand ils ont fait des ouvertures dans la base, ils ont été surpris de la facilité qu'ils ont pu faire ces ouvertures, parce qu'elle est quand même bien fatigué. Bon, ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que la base, une partie de la base, donc, était opérationnelle dès 41. Et donc, dans leurs plans, donc, ils avaient plusieurs plans. Ils avaient le premier plan, c'était donc de mettre hors d'état de nuire la forme Joubert, mais aussi il y avait d'autres projets dans leur opération. Les commandos devaient aussi détruire les pompes de l'usine élévatoire qui permet de garder un niveau dans les bassins de Paimbrette et les bassins de Saint-Nazaire, et également démolir un certain nombre d'installations portuaires pour rendre la vie la plus difficile possible à l'activité des U-boats. Donc, il y avait, même s'ils attaquaient pas la base sous-marine en elle-même, il y avait quand même l'idée aussi de vraiment
quelques sous-marins allemands.
Voilà. Peut-être pas forcément les sous-marins, mais au moins, parce que si l'usine élévatoire était hors d'état d'activité, ça aurait été problématique pour la sortie des sous-marins par rapport aux marées et tout ça. Donc, ils auraient été plus vulnérables. Donc, c'était aussi important dans l'opération. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de vedettes ont été détruites avant de débarquer. Donc, il y a eu beaucoup de victimes. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, il y a des commandos, mais il y a également beaucoup de marins qui ont péri dans cette opération.
D'accord.
Ouais, ça a été quand même une opération.
Alors, cette opération Chariot, on l'a dit au début de l'entretien, Hubert Chemreau, elle est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles de guerre. Elle a été imaginée très tôt. Un mois avant, simplement.
C'est-à-dire qu'elle était. Ils y ont pensé. On peut dire que en 41, alors faut savoir que d'abord ils ont reçu, parce que une opération commando, la réussite d'une opération commando, c'est le recueil des renseignements pour la préparer. Parce que
comme
ils
partout,
sont entraînés.
Ça n'a pas changé.
Voilà.
Ça.
Donc ils sont beaucoup entraînés dans certains. Notamment dans le port de Cardiff et aussi à Southampton, sur des installations similaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu énormément d'informations des réseaux de renseignement nazériens, notamment un réseau qui était lié au réseau du Musée de l'Homme, qui avait une antenne à Saint-Nazaire, qui était lié à l'ethnologue René-Yves Creston, qui est un membre important des Seizoeurs, qui était l'école artistique d'avant-garde bretonne. Donc, il y a des militants bretons qui ont intervenu dans cette affaire d'une façon importante. Donc, ils avaient une masse d'informations énorme dès 41. Donc c'est pour ça qu'après ils pouvaient préparer rapidement, parce que déjà ils avaient déjà beaucoup de choses, et puis il y avait l'entraînement avant des commandos. Donc voilà, c'est pour
Est-ce
ça
qu'on
que
on peut dire Hubert Chemreau que sans cette résistance bretonne de l'ombre,
elle a été importante.
Qui a transmis les plans, etc.
Ah oui, parce qu'ils ont parce qu'il faut savoir que Creston avait un oncle qui était de mémoire, je crois qu'il était directeur à la chambre de commerce, parce qu'il faut savoir que le port de Saint-Nazaire à l'époque était un port municipal. Donc toutes les installations, les plans étaient donc il a pu avoir les plans grâce à son oncle, et il y avait dans le groupe un architecte qui s'appelait André Batilla, qui était aussi membre des Seizoeurs, qui a permis de modéliser, de réduire, si on veut, par des grands plans. Un architecte, il est doué pour ça, pour pouvoir les envoyer en Grande-Bretagne. Alors, j'ai un copain irlandais, James Dorian, qui connaît bien l'histoire de l'opération Commando, qui a retrouvé dans les archives de Londres, archives nationales, plusieurs plans. Bon, il n'y a pas de nom, forcément, il signait pas. Mais on a une forte présomption de penser que c'est André Batilla qui les a transmis, en fait. Ah, mais voilà, mais bon, après, c'est le problème, vous savez, avec les réseaux, les gars, ils signaient pas. Et puis les réseaux, ils duraient pas longtemps non plus. Donc, il y a encore beaucoup de mystères tout autour de ça.
Ça veut dire que même maintenant, les historiens comme vous peuvent se baser uniquement sur du témoignage.
Témoignage et des archives qui restent.
Oral,
mais
des archives. Parce qu'évidemment, à l'époque, on n'écrivait pas ça, sinon.
Voilà, bah voilà, voilà.
Pas et puis, traîner le moindre papier.
Bah non. Alors, donc, il y a des archives en Grande-Bretagne, il y a des archives qui ont disparu aussi, le problème. Il y a des choses qui sont tombées entre les mains des Allemands, parce que les Allemands, ils ont. Le musée de l'homme a été démantelé, donc ils ont eu justement certains documents. Du port de Saint-Nazaire, c'est pour ça que ça les titillait, ils comprenaient pas qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Heureusement, ils ont pas réussi, ils sont venus quelques mois avant à Saint-Nazaire, une équipe de la Gestapo, et ils ont pas remonté jusqu'à Longue de Creston, et là, ça aurait été, je dis pas que ils auraient compris après, mais bon, ça aurait pu éveiller encore plus leurs soupçons. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de chance, en fait, il y a eu beaucoup de chance, en fait, dans cette affaire-là, hein. Beaucoup de, parce qu'on peut se dire qu'ils auraient pu échouer, parce que vous vous rendez compte, partir le 26 de Falmouth en Cornouailles et arriver à Saint-Nazaire au matin le 28, ils auraient pu, vous vous rendez compte, toute une escade comme ça,
ça on se fait repérer.
Voilà. D'ailleurs, ils ont été repérés par un sous-marin allemand, notamment. Mais et comme ils partaient plus, ils ont fait semblant de descendre vers La Rochelle, vous voyez. Et ils sont remontés après. Ça, c'était la ruse. Hein, non, d'accord. C'était. Puis c'est un espoir maritime en plus, parce que il y avait.
C'est-à-dire que les bateaux prenaient la direction de La Rochelle. Les Allemands, voilà, se sont dit, ils vont vers La Rochelle ou vers.
Voilà, ils descendent ou vers Gibraltar peut-être.
Et ils ont tourné à quel moment alors?
Alors, ils sont retournés un peu plus au large du Pays de Ré, si on veut, un petit peu, là, ils sont remontés, un petit peu avant, et puis ils ont repris le chenal, mais avec des endroits où il y avait beaucoup de bancs de sable, les mines, tout ça, ça aurait pu, à un moment, d'ailleurs, le Campbellton a talonné sur les bancs de sable, c'était parce que forcément, ils n'ont pas pris la route la plus évidente, quoi, hein. Et puis ils avaient transformé un peu le Campbellton, donc le bateau où il y avait une bombe à retardement, pas artisanale, une énorme bombe qui était dans ses entrailles, ils avaient transformé un peu le navire pour qu'il ait une silhouette d'un navire allemand.
Hein. Ah, ben bah voilà.
Ah oui, non, mais c'est très fort.
Donc, il y a une équipe de commandos, c'est ça, qui sort des bateaux pour aller mettre des explosifs à la base sous-marine.
Voilà, ils étaient à la fois...
Il y avait combien d'hommes, en pleine nuit?
De mémoire, il y avait... Il y avait 340, ouais, je retrouve là, 341 marins et 265 commandos.
Comment?
Au total.
C'est ça qui est incroyable. Comment près de 600 personnes, hein, finalement, voilà, qui arrivent dans l'estuaire de la Loire, passent presque inaperçues?
Il a fallu. Ah bah, c'était, en fait, c'est une concentration d'intelligence. Il faut dire que, les commandos, c'est pas n'importe qui, donc c'était déjà que des gars super au point. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup d'intellectuels, on trouve aussi bien des architectes, ingénieurs, on trouve des archéologues, vous voyez, qui étaient dans le civil, qui avaient d'autres professions, et donc c'était des gens qui étaient très très, c'est ça la force, c'est une concentration d'intelligence qui va faire que ils vont être très très efficaces.
Ça s'est passé en pleine nuit, c'est ça?
Ah bah oui, bah ils arrivent, ils vont arriver vers une heure, en fait ils vont amener le pavillon à 1h27 en arrivant devant Saint-Nazaire. Ils avaient le pavillon de la marine allemande, de la Kriegsmarine, et
faire diversion, voilà,
et après ils ont mis donc le drapeau de la Royal, le pavillon de la Royal Navy, et à 1h34 ils éprenaient la forme Joubert. Et derrière, les vedettes qui arrivaient, et là, c'est là qu'il y a eu beaucoup de casse, c'est les vedettes qui, parce que forcément, en plus, les Britanniques n'avaient pas beaucoup de moyens à ce moment-là, donc ils avaient mis ce qu'ils avaient. Et c'est vrai que beaucoup de vedettes qui étaient en bois, et donc elles ont explosé, donc ça, c'était le point faible, hein, ce qui fait qu'ils auraient pu être encore plus efficaces s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui ont été tués avant de débarquer, quoi.
Je pense à la mémoire de tous ces hommes, près de 600 hommes,
voilà,
qui arrivent.
Voilà, c'est pour ça que, voilà, parce que c'est
ils
pour ça que nous, à l'origine,
c'était un commando suicide.
Disons que c'était quand même.
Terre allemande, là, ils avaient très peu de chance, les Allemands.
Ah oui, parce
partout.
Que c'était un véritable nid de vipères. Hein. La forteresse de Saint-Nazaire était très très protégée. C'était énorme. Hein. Donc c'était quelque chose de très difficile à.
Je vais vous poser une question qui est difficile, ouais, cher Hubert, mais
oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces hommes? Se battre pour le monde libre, savoir qu'ils ont une
c'est-à-dire que oui, c'est pour la. D'ailleurs, quand on discute avec eux, ils parlent toujours de liberté. Hein. C'est la liberté qui revient toujours. Alors, il y en a aussi certains qui ont connu, par exemple, qui étaient sur le Lancastria, par exemple. Ou qui avaient de la famille, un frère ou un père qui était sur le Lancastria. Donc il y avait
terrible
aussi
histoire certains, qui se répète.
Hein, à le Lancastria avec on ne sait pas combien, 4 ou 5 000 personnes qui sont mortes dans ce navire de la Cunard là, qui a été détruit par la marine allemande, donc l'aviation allemande, le 17 juin 1940. Donc là aussi il y avait il y avait certains qui avaient une revanche aussi à prendre. Et il y avait beaucoup qui connaissaient déjà Saint-Nazaire, étant donné que Saint-Nazaire était un grand port logistique pour l'armée britannique en 1939-40. Donc il y en avait qui connaissaient déjà Saint-Nazaire. Certains avaient dit, on reviendra à Saint-Nazaire, oui.
Le résultat de tout cela, malgré tous les morts, ça a quand même été un succès pour les Britanniques.
Ah bah complètement.
Pour les Alliés, parce que la destruction.
Ah oui, ça a été un succès malgré les pertes énormes, quoi, hein, parce qu'ils ont mis hors d'état le fonctionnement de la base de commande de la forme Joubert. Mais bon, ils ont été un peu inquiets parce que ils avaient l'idée, c'était de prôner le caisson de la forme et avec une charge énorme explosive qui devait détruire le caisson et puis rendre inutilisable la forme. Alors, mais en fait, la bombe à retardement n'a pas fonctionné tout de suite. On pense qu'elle devait exploser plutôt au petit matin, et elle a explosé que vers 11h30 dans la matinée, vous voyez. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de soldats allemands, dont beaucoup de gradés qui étaient sur le bateau, triomphants, sauf mal leur appris, parce que là, ça a été, on sait pas combien il y a eu de morts, hein. Certains parlent de 200-300, on sait au moins une centaine, mais combien, ça a été là aussi terrible pour l'armée allemande, parce que là, il y avait plein de gradés qui ont été volatilisés, si on peut dire.
Et pour les Nazériens? Alors, a été un tournant dans l'histoire aussi de Saint-Nazaire.
Ah bah oui, parce que c'était quand même quelque chose d'important pour eux, parce que c'était une surprise déjà. Hein. Imaginez parce que dans le vieux Saint-Nazaire, que maintenant on appelle le petit Maroc, là vous aviez des maisons, c'était des ruelles et tout ça. Vous imaginez dans votre chambre à coucher, vous avez deux solides gaillards commando en kilt des Écossais qui passent dans votre chambre à coucher parce que c'était un truc incroyable, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de soldats il y avait des régiments écossais, alors eux ils étaient en plus en kilt, hein. Donc et ils avaient eu le droit, parce que en plus normalement dans une opération commando on n'a pas le droit théoriquement d'être en kilt parce que c'est pas pratique, hein.
Oui,
ils avaient eu autorisation spéciale parce que pour les responsables, c'était une opération tellement risquée où ils risquaient leur peau que là, ils méritaient bien d'avoir cette faveur, entre guillemets, de pouvoir être en kilt.
En quoi l'opération Chariot, donc, qui s'est déroulée à Saint-Nazaire, dont on célèbre le 80e anniversaire, est-elle un exemple aujourd'hui dans les écoles de guerre dans le monde entier, Hubert, puisque la forme de guerre maintenant est totalement différente? Aujourd'hui, il y aurait eu un tir de missile, par exemple.
Voilà. Oui, mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, vous voyez,
fais le parallèle.
Des soldats déterminés, avec peu de matériel déterminé, peuvent mettre en déroute ou contrarier les plans d'une armée bien organisée. Hein. Donc, puis là, c'est ce
qu'on appelle aussi. Le mot le plus important est prononcé, déterminé.
Ouais. Déterminé. Voilà. Et c'est une opération combinée, c'est à la fois marine, commando et aussi l'aviation, parce qu'il y a eu un bombardement avant l'opération le raid, qui était pour en fait détourner l'attention.
Hein. C'est l'opération Chariot aussi. Ouais. Qui a marqué un tournant de la Deuxième Guerre mondiale, finalement. C'est Saint-Nazaire qui a été comme un souffle d'optimisme sur la défaite allemande, sur la fin de la guerre, pour montrer qu'ils n'étaient pas aussi forts que ça.
Ah oui, non mais complètement. Hein. Complètement.
C'est merveilleux.
Ouais. On peut peut-être parler du programme.
Alors, vous organisez donc, pour les auditeurs qui nous rejoignent, mais ça on va le mettre sur internet aussi, les 26, 27 et 28 mars, donc à Saint-Nazaire, journée du 80e anniversaire de l'opération Chariot. Ça va se passer au restaurant La Taverne, c'est ça?
Alors, le problème c'est qu'on a bâti ce programme il y a quand même un certain nombre de mois et on était en plein Covid. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver une salle parce qu'on va projeter un film de Lina qui date de 1974, où là, ce qui est intéressant, on a à la fois des vétérans du commando et aussi des Nazériens qui ont vécu ce moment-là, des gens qui ont disparu, bien sûr, en 2022. Mais donc, on va projeter. Alors, il nous fallait des moyens, tout ça, pour projeter. Ce qui fait, et on a eu beaucoup de difficultés, ce qui fait qu'on s'est rabattu entre guillemets, sur la taverne, c'est très sympa. Hein. Mais bon, là, malheureusement, le fait d'être dans un lieu,
la taverne, c'est 45 limité. Avenue Albert Demain.
Voilà, donc le problème, c'est que là, on est complet.
Bon, bah.
Voilà. Par contre, le lendemain, oui. nous faisons un parcours énigme. Hein, oui, c'est-à-dire qu'on va faire
donc, un. Donc, dimanche.
Voilà, à partir de 10h, hein, de 10h à 13h, avec donc des énigmes à résoudre sur la trace des commandos, si on peut dire. Il y aura même, donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, on peut faire des groupes de 2 à 5 personnes, des enfants, des adultes, après, il y aura même des lots à gagner, hein, tout ça est gratuit pour les meilleurs.
Et il y aura aussi des. Ça va se passer au Petit Maroc, hein,
voilà, donc
Café
place
de
l'Atlantique, Voilà, le Café de l'Atlantique sera un peu, on va parler langage militaire, c'est notre camp de base, si on veut.
Voilà.
Hein, et il va y avoir une ambiance autour. Il y aura aussi
dimanche,
des reconstituteurs.
Dimanche, donc, au Café de l'Atlantique, 7 places de la rampe.
Il y aura aussi des reconstituteurs, c'est-à-dire des gars qui seront en tenue commando. Hein, donc, vous savez, là aussi, il y a des passionnés. Hein, ils vont vous faire une tenue commando comme si on vous étiez en plein dans le moment. Hein. Donc voilà, donc ça va se passer le dimanche et le lundi. Donc c'est la 10e année depuis 2012, depuis les 70 ans en fait. Nous organisons au Vieux Môle. Alors à l'idée, à l'origine, c'est James Dorion, notre ami irlandais, qui est un grand spécialiste, qui a écrit plusieurs livres sur l'opération Chariot, qui nous disait toujours, c'est quand même incroyable, le Vieux Môle, donc l'acheté où il y a eu le plus de morts, il n'y a rien qui rappelle ce qui s'est passé. Et si on s'était dit à l'époque, bon, on va faire une cérémonie, on va faire quelque chose à côté de la cérémonie officielle, avant, parce que c'est pas la même heure. Mais depuis, le monument de l'opération Chariot, qui était place du commando, a été déplacé en 2017, donc il est à côté. Donc nous, on va faire une cérémonie qu'on appelle interceltique, parce qu'on veut mettre en avant tout le côté interceltique, parce que c'est vrai que dans le commando, il y avait énormément d'Écossais, de Gallois, d'Irlandais, et puis bon, nous, Bretons, donc c'est une cérémonie différente de l'officiel, mais qui est... Il n'y a pas de concurrence, c'est complémentaire. Et les Britanniques adorent notre cérémonie et donc beaucoup font les deux, quoi. Hein. Voilà. Donc nous, c'est à 10h. Donc on fait toute une cérémonie d'hommage sur les lieux. Voilà.
Eh bien, c'est merveilleux pour la mémoire de tous ces gens qui sont
tombés.
Fait, hein,
voilà, parce que là maintenant, les derniers sont disparus depuis 2-3 ans. Donc il n'y a plus de vétérans, et les enfants des vétérans ben aussi ne sont plus très jeunes. Donc c'est vrai que là, il ne faut pas que cette mémoire s'efface.
On va mettre le programme complet sur notre site internet.
Voilà.
Hubert Chemreau, merci. Donc c'est organisé aussi par l'Institut culturel de Bretagne et le Centre de recherche et de diffusion de l'identité bretonne.
Alors, il y a plein de choses, parce que je sais que la mairie aussi va faire des choses, notamment les comusées. Donc on n'est pas aux mêmes heures, donc on n'est pas en concurrence, on est en complément. Oui. Pour nous, c'est la complémentarité.
Ah ben, plus il y a ce travail qui est fait pour rappeler ce qu'était l'opération Chariot, mieux c'est, là, cette fois-ci.
Voilà, c'est ça, c'est notre état d'esprit.
Je voudrais vous poser une dernière question, cher Hubert Chemreau, hors sujet, mais totalement hors sujet. L'historien que vous êtes, le militant breton que vous êtes, auprès de l'Institut culturel de Bretagne, du Centre de recherche et diffusion de l'identité bretonne, comment vivez-vous le débat sur le gouvernement qui maintenant dit tout de suite oui à l'autonomie de la Corse, il faut qu'on en discute, on est prêt à lâcher du lest. Les Bretons vont-ils s'engouffrer dans ce trou de souris, en quelque sorte?
Vous
voyez que c'était hors sujet, mais c'est aussi
d'actualité. Oui, tout à fait. Mais bon, alors, je pense qu'il y a un préalable à tout ce qu'on peut dire, c'est la réunification de la Bretagne. On peut pas faire les fondations, c'est une Bretagne unie. Hein. Quel que soit le statut qu'on peut donner à la Bretagne, il faut déjà que commence par une réunification de la Bretagne. Ça, c'est et ce qui n'empêche pas après de réclamer.
Elle est déjà réunifiée dans les comportements.
Dans les comportements, mais le problème, c'est que vous savez, on est d'accord, parce que on voit, notamment à Saint-Nazaire ou dans la Presqu'île, il n'y a pas de souci. Sauf que quand même, malheureusement, on est dans un système notamment français, l'administration a un poids énorme et les découpages administratifs font énormément, notamment quand vous voyez même au niveau du, des déplacements, quand on voit
les
problèmes
déplacements
de.
qui posent problème.
Alors, faites Saint-Nazaire-Vannes. On met plus de temps en 2022 qu'on en mettait il y a 70 ans. Est-ce que normal? Tout ça parce qu'il y a des lignes de chemin de fer qui ont été supprimées. Tout ça parce que c'est les régions qui décident plein de choses. Donc, le fait que l'administration, les découpages ont un rôle dans la vie de tous les jours. Alors, les gens, ils le voient pas, mais, ils se rendent compte après. Mais donc, c'est aussi, la réunification passe aussi par recoudre tous les liens qui ont été distendus entre la Loire Atlantique et le reste de la Bretagne, notamment nous, dans notre presqu'île. On est tellement proche du Morbihan que ça, c'est encore plus problématique que si vous étiez en Senie ou à Machecoul, par exemple. Ici, c'est quand même encore plus problématique.
Voilà, le préalable,
voilà.
C'est ça. Merci Hubert Chamroux.
Bon,
je rappelle
merci.
Que vous êtes historien. Merci de nous avoir parlé donc du 80e anniversaire de l'opération Chariot, une opération historique dont on parle maintenant toujours dans les écoles de guerre. Et vous allez célébrer ça à Saint-Nazaire du 26 au 28 mars.
Oui. En plus, la météo va être avec nous cette année, en plus, hein, parce que visiblement, il va faire très beau.
Parce qu'il y a 80 ans, elle n'était pas au rendez-vous.
C'était pas trop mal, mais bon, non, mais je parle en règle générale, il y a des années quand on laissait.
Parce que je crois qu'il y a 80 ans, il y avait quand même du brouillard, la pluie, il y avait.
Oui, mais c'était pas
heureusement,
trop.
Heureusement!
On a vu pire.
Heureusement, non?
On a vu pire.
Je crois que non, oui, c'est ça.
C'était la nuit, donc, non. C'est, là, on est reparti pour une demi-heure, si vous voulez.
Bon, alors, on passe une prochaine fois. Merci, cher Hubert Chamroux. À bientôt.
Merci, Yannick.